Luc, chapitre 6, versets 47 et 48. Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi et qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison et qui, ayant fouillé et creusé profondément, en a posé le fondement sur le roc. Et l'inondation est venue, le torrent a donné avec violence contre cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. Puisse le Seigneur éclairer notre esprit pour qu'on comprenne la leçon qu'il nous réserve dans ses paroles sacrées. C'est ma prière. Si je trouve grande ma croix, bien plus grande encore est ta grâce dans l'orage. J'entends ta voix, rien ne peut me voiler ta face. Ces paroles sont-elles votre expérience? Est-ce que nous pouvons dire, sans l'ombre d'un doute, que nous sommes certains de pouvoir chanter ces paroles avec l'assurance personnelle que nous en avons l'expérience? En tant que chrétiens, nous sommes croyants, nous voulons suivre Jésus-Christ. Nous voulons lui obéir, nous voulons lui être agréables. Seulement, Jésus nous dit que notre relation à lui dépend entièrement de la façon dont nous répondons à ses paroles. Parce que nous voulons aimer Jésus, nous voulons le servir, nous voulons lui être agréable seulement. Il nous donne une norme dans sa parole, comme nous l'avons vu dans la lecture biblique d'aujourd'hui, par laquelle il réveille nos nerfs spirituels pour nous donner autre chose que simplement notre propre point de référence quant à notre relation avec lui. C'est ce que nous avons lu dans notre lecture biblique, mais maintenant, nous voulons le lire davantage, exprimé différemment dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Jésus disait, et il nous dit, ce n'est pas tout homme qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Et elle n'est point tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents ont soufflé et ont fondu sur cette maison-là. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Vous voyez que Jésus nous présente ici un contraste et un principe pour nous offrir un point de référence vis-à-vis de la qualité de notre relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Quel est ce principe, ce point de référence de l'Écriture sainte par laquelle nous sommes secoués? Il dit que quand bien même nous avons prophétisé en son nom, parlé en son nom, prêché en son nom, présenté la sainteté de sa parole en son nom, quand bien même nous avons même chassé les démons en son nom et fait de multiples miracles en son nom, il dit que cela ne nous assure pas une place dans le royaume des cieux. Parce que c'est possible de faire métier d'iniquité tout en faisant ces choses pour Jésus-Christ. Nous le voyons en lisant ces versets. Ces personnes-là ont fait toutes ces choses. Et pourtant, il leur dit, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Et ensuite, il présente le concept de ce qui rend une personne agréable à Dieu. Il dit, « Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met, en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Donc, comme nous le voyons ici dans toute sa simplicité, Jésus nous enseigne que une simple profession de foi, ça n'a aucune valeur. Que seul celui qui fait la volonté de Dieu est accepté. Seul celui qui, entendant les paroles de Jésus, les paroles de Dieu, les met en pratique, seul celui-là sera considéré comme un homme prudent qui entrera dans le royaume des cieux. Et maintenant, ce que nous voulons faire, parce que j'aimerais vous assurer que je ne suis pas là en train de pointer du doigt, mais alors pas du tout, mais je vous présente quelque chose, une chose par laquelle je suis moi-même absolument éprouvés et appelés à partager la parole de Dieu. Et ce que l'on veut faire, c'est approfondir cette réalité que Jésus nous a ici présentée et introduite à notre réflexion. Il parle de l'homme prudent et de l'homme insensé, de celui qui, entendant la parole de Dieu, la met en pratique, et de celui qui, entendant la parole de Dieu, ne la met pas en pratique, mais construit sa maison sur le sable. Et pour cela, on va se tourner vers le passage de Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, verset 22. Et vous allez voir que c'est directement lié à ce discours de notre Seigneur Jésus, où l'apôtre Jacques, ici, nous présente l'élargissement inspiré de cette injonction et de cet avertissement de Jésus. Il écrit, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc, qu'est-ce que c'est? Mettez en pratique la parole, comme Jésus l'a dit, et ne vous bornez pas à l'écouter. Nous avons davantage d'informations ici. Que simplement, je ne me contente pas d'écouter la parole, et de me tromper ainsi moi-même par un faux raisonnement à l'intérieur de moi-même qui me dirait que simplement parce que je l'ai écoutée, elle va nécessairement, forcément provoquer une transformation et une obéissance automatique à l'intérieur de moi pour Jésus. Non, l'apôtre Jacques nous dit ici, faites attention parce que sinon vous êtes en danger de vous tromper vous-même par un tel raisonnement. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable. À quoi est-il semblable? Jésus l'avait comparé à un homme qui bâtit sa maison sur le sable. Et à quoi l'apôtre Jacques le compare-t-il ici? Vous allez voir que l'inspiration élargit cela pour nous aider à sortir de nos faux raisonnements qui sont un danger pour nous, comme l'apôtre Jacques ici nous le dit. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, dès qu'il sait regarder, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Il a regardé, il a vu son visage, les traits de son visage, et ensuite il est parti, il a oublié ce à quoi il ressemblait. L'apôtre Jacques nous dit sous l'inspiration que c'est à cela que Dieu compare l'homme qui ne met point en pratique la parole de Dieu, mais qui se borne à simplement l'écouter. Il est comme quelqu'un qui a regardé son visage dans le miroir, il a entendu la parole de Dieu, et après il est parti, il a oublié ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu de lui-même. Et il a continué comme avant. Nous sommes avertis ici. Et comment sommes-nous avertis davantage? Est-ce la mission de Dieu, le dessein de Dieu de simplement nous condamner sans pourvoir une issue, une échappatoire à notre condition qui nous semble si impossible de nous en dépêtrer. Il dit au verset 25, « Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. » Donc, quelle est l'alternative? Quelle est la possibilité que Dieu nous présente dans son amour parce qu'il ne veut pas nous laisser périr? Il ne veut pas nous laisser nous tromper nous-mêmes par nos faux raisonnements. Il nous dit de plonger nos regards dans la loi parfaite et d'y persévérer en pratiquant les œuvres. Celui qui aura fait cela sera heureux dans ce qu'il aura fait. Il sera heureux, il aura le bonheur. Mais comment? Comment aura-t-il ce bonheur? C'est ça que l'on veut savoir. Vous savez, pendant de nombreuses années, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire cette loi parfaite? Cette loi de la liberté que, dans laquelle si je plonge mes regards en pratiquant les œuvres, je serai heureux? Eh bien, j'aimerais pour cela utiliser l'esprit de prophétie pour, avant de développer, élargir ce passage que nous venons de lire. Et pour cela, j'aimerais lire le commentaire biblique à la page 1736, directement en rapport avec ce passage de Jacques chapitre 1. Je lis. Voilà la parole du Dieu vivant. La loi est le grand miroir moral de Dieu. Elle parle ici de la loi parfaite, au sujet de laquelle nous venons de lire. L'homme doit comparer ses paroles, son esprit et ses actions avec la parole de Dieu. La vraie religion, c'est vivre la parole dans notre vie pratique. Votre profession de foi n'a aucune valeur sans la mise en pratique de la parole. Ensuite, elle continue vis-à-vis du verset 25, qui a justement trait à cette activité de la loi parfaite dans laquelle nous devons plonger nos regards et persévérer. Qu'est-ce qu'elle dit? Voilà ce que le témoignage de Jésus nous dit. Voici un miroir dans lequel nous devons plonger nos regards et rechercher chacun de nos défauts de caractère. Mais supposons que vous regardiez dans ce miroir et que vous voyiez de nombreux défauts dans votre caractère, puis que vous vous en alliez et que vous disiez « Je suis juste ». Serez-vous juste? Elle pose la question. Nous venons, nous regardons ce miroir qui est la loi parfaite, la loi de Dieu. Mais nous y voyons trop de défauts dans notre caractère et donc nous en allons et nous disons « Je suis juste ». Elle pose la question « Serez-vous juste ? » Est-ce que parce que je m'efforce d'oublier ce que je viens de voir et que je me dis à moi-même « Je suis juste », elle pose la question « Serais-je juste ?» Elle répond « À vos propres yeux, oui, vous serez juste et saint. Mais qu'en sera-t-il à la barre de Dieu ?» Dieu nous a donné une règle et nous devons nous conformer à ses exigences. Si nous osons faire autrement, la piétiner sous nos pieds, pour ensuite nous présenter devant Dieu en disant « Je suis saint, je suis saint !» Nous serons perdus au grand jour du règlement des comptes. Donc, quel est le conseil ici? Dieu nous dit qu'il nous a donné une règle et que nous devons nous conformer à ses exigences. C'est-à-dire que lorsque je regarde ce miroir, la loi parfaite de Dieu, il ne faut pas que je m'en aille en me disant « Je suis juste, je suis saint. » Parce que peut-être que je me tromperai moi-même par un faux raisonnement. Peut-être que je serai juste et saint à mes yeux, mais il n'en sera pas ainsi à la barre de Dieu. Et le danger ici, comme nous sommes averti, c'est que si j'ose faire autrement que me conformer aux exigences de la parole et que je piétine sous mes pieds la loi de Dieu que je suis censé regarder attentivement et que je dise devant Dieu « je suis saint », que je dise cela à l'intérieur de moi-même, on nous dit nous serons perdus au grand jour du règlement des comptes si nous faisons cela. Donc voilà, il faut que nous réfléchissions à cela. Et plus encore, nous avons un besoin profond de comprendre l'activité de plonger nos regards dans la loi parfaite de la liberté. J'ai déjà qualifié cette loi en disant que c'est la loi de Dieu, mais nous voulons plus de preuves encore, parce que cette expression employée par Jacques ici peut être déconcertante pour certains. Quelle est cette loi parfaite de la liberté? Eh bien, il développe le sens et l'identité de cette loi dans le chapitre 2, versets 8 à 12. Et là, au verset 8, il dit « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Verset 11 « En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point. » Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. Verset 12. Ainsi, parlez et agissez comme devant être jugé par la loi de la liberté. Vous voyez comme il vient de faire le parallèle entre la loi de Dieu, la loi royale, et la loi de la liberté? C'est la même chose. Il vient de rassembler ces deux expressions pour nous faire comprendre de quelle loi il s'agit véritablement lorsqu'il parlait au chapitre 1, verset 25 de cette loi parfaite, la loi de la liberté. Donc, c'est ce que nous venons de voir. Nous sommes appelés à plonger nos regards dans cette loi parfaite. C'est la loi qui exprime le caractère de Dieu, la perfection de Dieu, la sainteté de Dieu. Et donc, je pose la question. Si cette loi dans laquelle nous sommes appelés à plonger nos regards, et la loi de la perfection de Dieu, la loi parfaite, même si elle est ici appelée la loi de la liberté, si cette loi est la loi de Dieu, la loi parfaite du Dieu saint de l'univers, dites-moi, que va faire la loi de Dieu à celui qui plonge ses regards dans cette loi parfaite de la liberté? Nous avons la réponse dans le livre de Romains, au chapitre 7, versets 7 à 9. Et là, nous lisons. Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché était mort. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais, mais le commandement étant venu, le péché a repris vie. Donc, que va me faire la loi de Dieu lorsque je plonge mes regards dans la loi de Dieu? L'apôtre Paul nous dit ici, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Qu'a fait la loi à l'apôtre Paul? Elle lui a fait connaître le péché. Imaginez que vous dites à un enfant, ne touche pas à ça. Peut-être qu'il n'avait pas envie d'y toucher, mais maintenant que vous venez de lui dire qu'il ne faut pas qui touche à cela. La première chose qu'il va vouloir faire, c'est d'aller toucher cette chose qui lui est maintenant interdite. Et la loi nous fait exactement cela, parce qu'il dit au verset 8, le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché était mort. Avant la loi, tout allait bien. Mais quand j'ai plongé mes regards dans la loi parfaite et que j'y ai persévéré, j'ai été jeté dans la stupéfaction. Le péché, à travers le commandement, a produit en moi toutes ces convoitises. Et la loi me fait réaliser à quel point je suis vraiment sans espoir. Et le péché crée un enfer de rébellion à l'intérieur de moi en réaction à cette réalisation insupportable de mon état de pécheur fini. Voilà ce que la loi de Dieu fera et fait à celui qui plonge ses regards. Mais l'apôtre Jacques nous a dit que celui qui plonge ses regards en persévérant et en accomplissant les œuvres, il sera heureux dans ce qu'il aura fait. Sauf que là, dans ce que nous venons de lire, il n'y a pas encore de bonheur. Mais nous voulons arriver à cette étape où nous pouvons être heureux et nous savons comment nous serons heureux dans ce que nous aurons fait en ayant plongé nos regards dans la loi de Dieu. Parce que souvenez-vous, tout ça, cela fait toujours partie de l'activité par laquelle nous gardons les paroles de Jésus et les mettons en pratique. Simplement, nous sommes en train de développer ici. Et en développant, nous voyons une activité par laquelle même l'apôtre Paul disait « Avant que la loi elle vienne, je vivais, mais le commandement étant venu, le péché a repris vie. » Et, verset 10, « Moi, je suis mort. » Et il s'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. C'est la loi parfaite de la liberté. Je pensais que j'y allais y trouver la vie. Mais ce qui se passe, c'est en obéissant à l'injonction de Dieu, à son commandement, de plonger mes regards dans la loi de Dieu, ça me met à mort. Ça me plonge dans toutes sortes de convoitises qui étaient avant cela, qui étaient pour ainsi dire désactivées, mais qui ont été attisées comme l'essence sur le feu et ont produit en moi cette terrible angoisse et terreur et horreur de la loi qui a créé en moi la réalisation que je ne suis pas comme Dieu veut que je sois. Il continue au verset 11, « Car le péché prenant occasion du commandement m'a séduit, et par lui, par le commandement, m'a fait mourir. » Et verset 12, ici, il dit, « Ainsi la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon m'a-t-il donc donné la mort ? Nullement, mais c'est le péché, afin qu'il parût péché, en me donnant la mort par une chose bonne, et que le péché devint excessivement pécheur par le commandement. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Voilà la réalisation que l'apôtre Paul a faite en plongeant ses regards dans la loi de Dieu. La loi, elle est toujours parfaite, il dit. La loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon, la loi, elle n'a pas changé. Ce n'est pas la loi qui est en tort, mais son autorité et sa sainteté a exalté, a attisé à travers le péché en moi une nature rebelle qui me jette dans l'horreur de ma condition. Et maintenant, où est ce bonheur? Comment serais-je heureux dans ce que j'aurais fait si cette loi ne fait que me condamner? Où aurais-je la liberté que c'est censé être la loi de liberté? Où est cette liberté, Seigneur? Le chrétien sincère et fervent aura cette question à l'intérieur de lui. Et la réponse, La réponse à cette question, nous la trouvons dans Galates chapitre 3. Le début de cette réponse se trouve dans Galates chapitre 3, versets 21 à 24. Et vous voyez, c'est directement la continuité de ce que nous étions en train de voir ici. Il dit, la loi est-elle donc contraire aux promesses de Dieu? Nullement, car s'il eût été donné une loi qui pût donner la vie, la justice viendrait véritablement de la loi. Donc la loi, elle ne peut pas me donner la justice. Je plonge mes regards, mais elle ne fait que me condamner. Et elle me plonge encore plus et encore plus dans cet état de condamnation et de dépravation parce que le péché est attisé, comme je l'ai dit auparavant, comme la flamme sur laquelle on jette le carburant. La justice viendrait véritablement de la loi si cette loi pouvait me donner la vie. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que la promesse fût donnée par la foi de Jésus-Christ à ceux qui croient. Or, avant que la foi vînt, nous étions renfermés sous la garde de la loi pour la foi qui devait être révélée, de sorte que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc la loi nous renferme sous le péché en nous faisant réaliser notre abjecte condition sous sa condamnation et elle nous fait ainsi ressentir notre terrible besoin d'autre chose, d'une chose que nous n'avons pas mais dont nous avons terriblement besoin pour obtenir la délivrance de cette situation. Parce que nous crions après cette liberté dont elle est la loi, mais ne comprenant pas que la loi est le conducteur pour me mener à Christ afin que je sois justifié par la foi. Donc cette terrible condition de choses est l'ordre des choses par lequel Dieu désire me mener à Jésus. Et c'est l'expérience que l'apôtre Paul a faite et qu'il exprime dans Romains chapitre 7 où nous étions en lisant maintenant les versets 24 à 25. Avec toute cette réalisation, cette frustration, cette incertitude, cet état où il était terriblement déconcerté par rapport à sa condition, et en ayant cru qu'il aurait pu atteindre l'objectif en se concentrant sur la loi de Dieu, maintenant, il dit, misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? Parce qu'il disait, au verset 21, je trouve donc cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur, il aime bien faire la loi de Dieu, accomplir la loi de Dieu, obéir à Dieu. À l'intérieur de lui, son homme intérieur aime cela. Mais il dit, mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. C'est pour ça qu'il dit, misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? Et il répond, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a trouvé la liberté. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce, merci Seigneur, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a trouvé la liberté. Et pourquoi est-ce que je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ? Parce que je sais qu'il a porté tout cela en lui pour que je puisse en être délivré. L'apôtre Paul, il connaissait toute l'histoire de la rédemption, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Mais il fallait qu'il réalise l'application personnelle directe, intime de ce sacrifice dans sa vie vis-à-vis de l'activité qui serait créée à l'intérieur de lui à travers cette présentation de la loi de Dieu. Et donc, étant terriblement déconcerté et troublé par cette opposition de l'homme intérieur et de la loi qui est dans ses membres, de sa chair, il criait à Dieu pour une échappatoire et il a trouvé l'échappatoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Et quel est le mouvement de l'esprit, de nos esprits, par lequel l'Esprit de Dieu nous indique les choses qui peuvent nous faire réaliser cela? Où est-ce que nous réalisons cela? Où est-ce que nous trouvons cet échappatoire? Où est-ce que nous réalisons cette liberté? Eh bien, c'est écrit dans le psaume 40. Et c'était écrit que Jésus allait lui-même lire à son sujet dans l'Écriture sainte et qu'il allait être encouragé comme nous aussi, en lisant son expérience, nous sommes réconfortés à l'idée qu'il a souffert cela pour nous et avec nous et nous étions en lui. Le psaume 40. Quelle est la raison pour moi de me réjouir quand la loi de Dieu ne fait que me condamner? Comment est-ce que je peux être délivré de cet misérable homme que je suis? Le psaume 40, versets 8 à 14. Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. Donc, en son cœur, il se disait, oui, je viens à toi, Seigneur, et il ouvrait les Écritures, et il a trouvé ce passage. Et il lisait ce qu'il pensait, et alors qu'il se disait cela, il lisait, alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. C'était exactement ce qu'il lisait et qu'il pensait. Et ensuite, l'activité de son esprit nous est dévoilée. Il disait, mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes entrailles. J'ai annoncé ta justice dans la grande assemblée. Voici, je ne tiens pas mes lèvres fermées, Tu le sais, ô Éternel. Je n'ai point renfermé ta justice au-dedans de mon cœur. J'ai dit ta fidélité et ta délivrance. Je n'ai point caché ta bonté ni ta vérité à la grande assemblée. Toi donc, ô Éternel, ne me ferme pas tes compassions. Que ta bonté et ta vérité me gardent continuellement. Car des maux sans nombre m'ont environné. Mes iniquités m'ont atteint et je ne puis les voir. Elles surpassent en nombre les cheveux de ma tête et le cœur me manque. Éternel, veuille me délivrer. Éternel, accours à mon aide. C'était le cri qui était dans le cœur de Jésus. Dans Ésaïe chapitre 53, nous lisons que l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et ici, il disait, des maux sans nombre m'ont environné, mes iniquités m'ont atteint. Et je ne puis les voir, elles surpassent en nombre les cheveux de ma tête. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, nous lisons que lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. C'était ses péchés et il disait mes iniquités. Et dans mon incapacité à obéir à la loi de Dieu véritablement, et quand je crie misérable homme que je suis, qu'est-ce qui va pouvoir me délivrer de cela? Nous lisons au sujet de Jésus, mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Et lui, il a pris plaisir à faire la volonté de Dieu. Et si je reçois Jésus à l'intérieur de moi, la loi de Dieu est dans son cœur et en le recevant en mon cœur, je reçois celui qui a obéi à toute la loi parfaite de la liberté avec joie. Et pas seulement cela, mais il endurait les terribles angoisses des pécheurs qui se sentent tellement condamnés par la loi de Dieu qu'ils n'osent même plus prier Dieu. Il a traversé cela. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul, il pouvait dire, en étant frappé par la réalisation d'où lui viendrait la délivrance, il pouvait dire, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ. Il se souvient, il réalise, il pense à ce que Jésus a traversé et traverse pour lui et en lui. Ses iniquités surpassaient en nombre les cheveux de sa tête. Il ne pouvait plus lever les yeux à cause des choses qu'il a prises qui étaient les miennes. Ce sont ces choses-là qui créent en nous une réalisation, un esprit, un élan de gratitude et de remerciement et de soulagement. Parce que je peux déposer mon fardeau sur lui, parce que je vois qu'il l'a pris sur lui. Et il a traversé tout cela pour moi, qui aurait besoin d'une issue après que j'ai manqué à mes devoirs envers Dieu. C'est pour ça qu'il a traversé ça. Pour que lorsque j'ai péché, lorsque j'ai manqué à Dieu, lorsque j'ai failli, je puisse avoir l'espoir. Et dans le psaume 40, versets 2 à 5, nous avons la conclusion de notre message, qui ferme le cercle, pour ainsi dire, de cette méditation. Parce que après que Jésus ait traversé tout cela, et vous vous souvenez, il disait sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais après qu'il ait attendu, il a pu dire, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et par la foi, il s'en est remis à Dieu. Et dans le psaume 40, verset 2, nous lisons le langage de son cœur lorsqu'il a fait cela. J'ai patiemment attendu l'Éternel, et il s'est incliné vers moi. Il a entendu mes cris. Il m'a fait remonter de la fosse de destruction, du bourbier fangeux. Il a posé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un nouveau chant de louange à notre Dieu. Plusieurs le verront et auront de la crainte et se confieront en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et ne se tourne pas vers les orgueilleux, vers ceux qui s'adonnent au mensonge. Quel est le message? Quel est le message ici? Comment est-ce qu'il a pu avoir ses pieds posés sur le roc Jésus-Christ? Comment Jésus a pu faire cette expérience? Parce qu'il a attendu patiemment l'Éternel. Et l'Éternel s'est incliné vers lui. Le Père a entendu ses cris. Et ensuite, verset 5, il est écrit « Heureux l'homme qui place comme cela en l'Éternel sa confiance. » Vous vous souvenez ce qu'on a lu dans Jacques chapitre 1, verset 25 ? « Heureux l'homme qui fait cela, qui plonge ses regards dans la loi de Dieu et qui y persévère, sera heureux dans ce qu'il aura fait. » Comment ? En faisant et en traversant l'expérience que Jésus-Christ a faite. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ. Il s'agit d'une traversée, d'un passage dans l'expérience de Jésus. Je ne passe pas à côté, je ne fais pas le tour, je passe en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et c'est comme cela que je peux être heureux parce que j'ai placé en l'Éternel ma confiance. Voilà l'homme prudent dont Jésus parlait. C'est celui qui s'attend à l'Éternel, qui place en l'Éternel sa confiance et qui attend de lui seul le soulagement. Heureux l'homme qui fait cela et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux, vers ceux qui s'adonnent au mensonge, vers ceux qui espèrent en autre chose qu'en cela, qu'en cette attitude, qu'en cette délivrance qui a été opérée pour nous en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et maintenant, pour compléter cela, cette magnifique méditation que le Seigneur vient de nous donner, j'aimerais que l'on se tourne brièvement vers le psaume 119. Le psaume 119, en lisant les versets 10 et 11. Donc, quel sera, à la lumière de cela, l'activité qui va nous animer et par laquelle nous pourrons bâtir sur le roc? Il est écrit « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment est-ce que Jésus, quelle était l'attitude de Jésus, quel était son dévouement à l'intérieur de lui par lequel il a pu dire « J'ai patiemment attendu l'Éternel » et par laquelle il a finalement été remonté de la fosse de destruction et grâce à laquelle, ayant mis en l'Éternel sa confiance, l'Éternel a posé ses pieds sur le roc. C'est ce qui est écrit ici. Il a cherché l'Éternel de tout son cœur et il a prié que le Père ne le laisse pas égarer loin de ses commandements. Il disait « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et pendant qu'il portait toutes les iniquités, les péchés de l'humanité, en plus de tout ça, il a fait cela. Et il disait, psaume 40, verset 12, « Toi donc, ô Éternel, ne me ferme pas tes compassions, que ta bonté et ta vérité me gardent continuellement. » Donc, pendant qu'il était complètement condamné, complètement accusé, complètement accablé par ce poids exterminateur de toutes les iniquités du monde, il disait cela. Et donc lorsque moi je suis accablé par le misérable homme que je suis, par la réalisation que je reçois de la loi parfaite de Dieu, que vais-je faire? Ce que Jésus a fait. Toi donc, ô Éternel, ne me ferme pas tes compassions, que ta bonté et ta vérité me gardent continuellement. J'ai patiemment attendu l'Éternel, il s'est incliné vers moi. Il a entendu mes cris. Il m'a fait remonter de la fosse de destruction, du bourbier fangeux. Il a posé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. C'est ce que Jésus a fait et que nous pouvons faire à travers lui, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà l'activité qui est placée à nos yeux. Et nous voulons conclure par ces paroles personnelles de Jésus dans le livre Jésus-Christ à la page 304, paragraphe 2, où tout ce que nous avons vu est résumé et nous pouvons nous attacher, nous accrocher à ces paroles affectueuses de Jésus pour nous. « Il ne suffit pas, dit-il, d'écouter mes paroles. Il faut que vous fassiez d'elles par l'obéissance le fondement de votre caractère. Le moi n'est que sable mouvant. Si vous bâtissez sur des théories et des inventions humaines, votre maison s'écroulera. Elle sera renversée par les vents de la tentation et par les tempêtes de l'épreuve. Recevez-moi, bâtissez sur mes paroles. » Voilà, c'est ce que Jésus a fait. Il a bâti sur la parole de Dieu. Et quand il était tout condamné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé en l'Éternel sa confiance. Et heureux l'homme qui fait la même chose. Heureux serons-nous lorsque nous faisons comme Jésus a fait. Parce que comme nous avons lu dans Galates chapitre 3, qu'est-ce que c'était? Quelle était l'activité de Dieu à travers la loi? L'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que la promesse fût donnée par la foi de Jésus-Christ à ceux qui croient. De sorte que la loi a été notre conducteur pour nous mener à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et c'est cette foi de Jésus qu'il nous faut, serrer la parole de Jésus dans notre cœur. Il a dit, recevez-moi, bâtissez sur mes paroles. Donc puisse le Seigneur nous aider à faire exactement cela, afin que nous fussions justifiés par la foi. C'est ma prière. Amen.